11h30.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous. Ça fait du bien d'être avec vous ce vendredi sur Europe 1. Elle n'a pas reçu d'étoile au guide Michelin. Pourtant, c'est pas faute de nous mijoter des chroniques aux petits oignons. La délicieuse Christine Béroux.
Bonjour à tous.
S'il avait su que les radars lui coûtaient aussi cher, il en aurait fait profiter davantage et se serait fait flasher un peu plus. Le contribuable pas rentable, Mickaël, qui regarde.
Ah bah, les autres sont charmants, moi je suis pas rentable, merci, bonjour.
Le charmant Mickaël qui regarde, le sublime Mickaël qui regarde.
Là c'est mieux, c'est
mieux. Non, fais pas trop non plus.
Bah, tu sais, vous avez tous des égos.
Pas possible.
Depuis qu'elle sait que Thomas Pesquet retournera dans l'espace en 2020, elle a décidé de se fabriquer une fusée pour enfin pouvoir s'envoyer en l'air avec lui. Léa Londo.
Moi je suis d'accord et j'ai pas d'égo, bonjour à tous.
En cette journée mondiale contre la lèpre, il va rentrer dans une boutique Dior pour se rendre compte de ce qui coûte la peau des fesses. Jérémy Lorquette avec nous.
J'ai eu peur.
Et celle qui ne fait pas fondre que les glaciers du Groenland quand elle porte un décolleté, notre chauffage d'appoint, Anne Romanoff.
Au sommaire de cette émission, Mickaël Quiroga nous expliquera pourquoi le grand débat l'intéresse. Jérémy Lorca nous parlera des clichés. À 11h30, nous recevrons Titoff et Thaïs pour la pièce Amoureux, actuellement au théâtre de 10h à Paris. Et à partir de 11h50, ce sera le grand philosophe Michel Onfray qui sera notre invité pour son livre Sagesse, savoir vivre au pied d'un volcan, qui vient de sortir aux éditions Flammarion Albin Michel. Christine Béroux nous fera un résumé du livre de Michel Onfray et Léa Londo lui a préparé une interview volcanique.
11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
C'est aujourd'hui que sort le guide Michelin. Vous aimez aller déjeuner dans les grands restaurants, vous faites bien la cuisine. Quel est votre plat préféré, Léa?
Bah pour moi, Anne, les grands restos, c'est comme les beaux mecs, j'ai jamais goûté. Et mon plat préféré, c'est les choux. Ça fait des années que je suis dedans.
Christine ?
Bah, je sais pas, moi je comprends pas. En ce moment, à chaque fois que je veux réserver dans un grand resto, ça raccroche. Je dis bonjour, je voudrais réserver pour 3, 2 adultes et un bébé de 9 mois. Et bim, plus personne. Donc un problème technique, hein, sûrement. Je sais pas.
Mickaël ?
Ah, moi, les grands restaurants, j'adore ça. Franchement, de temps en temps, je vais au McDonald's des Champs-Élysées.
Mais McDonald's, c'est. McDonald's, Mickaël, c'est pas du tout un grand restaurant.
Bah, 1400 mètres carrés, je sais pas ce qu'il vous faut.
Jérémy ?
Ah, moi, j'adore un plat de chez moi, le Welsh. Vous savez ce que c'est le Welsh ?
Ouais,
ouais,
bon.
Une tranche de pain, 10 cm de cheddar, un bidet de bière, du jambon, un œuf par-dessus et des frites. Ah bah, tu donnes ça à un diabétique, tu finis en tôle pour homicide volontaire.
Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
C'est aujourd'hui que paraît l'édition 2019 du Guide Michelin. Je rappelle que dans un restaurant étoilé, 2019, c'est le montant de l'addition.
Dans le cadre du grand débat national, un débat de 12 heures est organisé aujourd'hui à la mairie de Paris. 12 heures, ça paraît long, mais le temps de trouver une place pour se garer, ça n'est juste une demi-heure pour le débat.
À Ivry, le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, tiendra un discours sur le quinquennat de François Hollande. De son côté, François Hollande tiendra un discours sur le thème « C'est qui Olivier Faure ?»
À Ivry, le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, tiendra un discours sur les quinquennats de François Hollande. Il commencera à 15h pétante et finira donc à 15h03.
Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, fait aujourd'hui un discours sur le quinquennat de François Hollande. L'occasion pour les socialistes de méditer cet adage. Si Olivier Faure, Hollande avait déjà bien creusé.
Oh, oh.
Ah, pas mal.
Oh.
Joli.
C'est top.
Merci.
C'est officiel, les sœurs Kardashian ont testé le maquillage vaginal.
Ouais.
Alors, je ne savais même pas que ça existait. Je comprends mieux pourquoi il faut s'inquiéter quand on voit des traces de rouge à lèvres sur le col de son mec.
Demain samedi, le Parti communiste français présente la liste définitive de ses candidats aux élections européennes. Alors ça, c'est un scoop. Des candidats, c'est dingue. Ça veut dire qu'au PC, ils sont encore plusieurs.
Europe.
On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Christine Béroux, Jérémy Lorca, Léa Londo, Mickaël Quiroga. Et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour dans l'un des 9 instituts Thalazur, Thalassothérapie et Spa en jouant à notre jeu Devinez qui je suis.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Mickaël Quiroga, Léa Londo,
oui.
Christine Béroux.
Bonjour.
Et Jérémy Lorca. Oh, je ne savais plus comment tu t'appelais, on est vendredi. C'est le moment de quoi, Mickaël Quiroga?
Eh bien, c'est le moment de votre jeu.
Europe 1, Anne Romanoff.
Devinez, devinez, devinez qui je suis.
Alors, le principe du jeu est simple, Alando, c'est quoi ?
Deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités qui ont marqué la semaine.
Voyez, Léa est prête à me remplacer. On sent que t'es au taquet.
Je suis au taquet, t'inquiète.
À l'occasion de... Regarde, elle va... un jour, elle me mettra une peau de banane si on trouve mon cadavre.
Anne, non, je serai plus discrète.
Pourquoi tu crois qu'elle
ce sera de la mort aura dans ton café du matin.
Qu'est-ce que vous pouvez gagner aujourd'hui ? À l'occasion du Salon des Thermalis, tentez de gagner une escale détente zen de 3 jours, 3 nuits à l'hôtel Baie des Anges, Thalazur, Antibes. Alors ça, j'y ai déjà été, c'est magnifique. Il fait partie des 9 instituts Thalazur, Thalassothérapie et Spa en France, des hauteurs d'Antibes avec une vue imprenable sur la Baie des Anges. Vous découvrirez les soins hydromassants, les modelages Thalazur pour vous remettre des fêtes et des réveillons. Rendez-vous sur thalazur.fr.
T'avais fait quel soin, toi ?
J'avais rien fait, j'avais fait un spectacle et j'ai dormi une nuit.
Mais c'était super.
L'hôtel était magnifique, ouais. Une très jolie vue. On joue alors avec qui ? Cédric. Bonjour Cédric.
Bonjour Anne.
Vous avez 28 ans, vous êtes comédien, vous habitez à Roissy-en-Brie.
Oui, tout à fait.
Et actuellement, vous jouez dans la pièce Oscar au théâtre de la Comédie Saint-Michel, c'est ça ?
Tout à fait. Nous jouons tous les mercredis à 19h45 et tous les dimanches à 18h30.
Donc en fait, vous faites le jeu pour faire de la promo pour le spectacle.
Je faisais un petit clin d'œil, tout à fait. la pièce dans laquelle je joue actuellement.
Vous jouez quel rôle ?
Le rôle du masseur.
Ah ! Mais pourquoi tout le monde fait un ?
Non, je vous ferai remarquer, je suis le seul qui n'a pas dit ah.
Alors, vous êtes en couple, vous avez une petite fille d'un an et demi.
Oui, elle a 20 mois, elle s'appelle Aileen.
Très bien, tout se passe bien, elle dort, contrairement à la fille de Christine.
Oui, voilà, j'attendais. Je ne veux même plus poser la question.
Elle joue à la dinette pendant que je suis avec vous.
Là, elle joue à la dinette. Mais la nuit, elle dort ?
Oui, très bien.
Ah, c'était pas la peine d'ajouter très bien. Voilà, adore, ok, super. On est très contents pour vous, Cédric. Voilà.
Mais ça va venir un jour.
J'ai perdu tout espoir.
Quel âge est là maintenant, votre enfant ?
Elle a 9 mois.
Il faut dormir à 9 mois quand
on,
même.
On en est vraiment, on a passé le cap, ça y est, on l'insulte maintenant. On n'a plus du tout de pudeur.
Assomme-la.
Ouais. Bah oui, c'est l'étape d'après.
T'as essayé les somnifères ?
Tu poses la question.
On peut pas donner des somnifères à un bébé, mais enfin. Après, tu dis, je rêve d'être père. Non,
la dernière fois, j'avais proposé de l'éther. Là, c'est une autre étape.
Oh,
c'est plus soft.
Mais t'es horrible. Bon, Cédric, vous êtes concentré ?
Tout à fait.
Vous allez jouer avec qui ?
Avec Léa Lando.
Tu vois, parce que le public souffle.
Ouais,
pourquoi le public dit Léa ?
Je sais pas, comme
Léa
si c'était une évidence.
C'est la meilleure à ce jeu.
Alors, je tiens à préciser que depuis le début d'année, je n'ai perdu qu'une seule fois.
Tu n'as joué qu'une seule fois. Curieusement, les gens ne te font pas confiance.
C'est faux et les auditeurs le savent. Voilà.
T'as joué combien de fois ?
La semaine dernière, je sais pas, une petite dizaine de fois. La semaine dernière, j'ai fait gagner 2 fois.
Oh.
Non, mais voilà, les gens s'en rappellent. Vous, non. Dès que je réussis un truc, de toute façon.
Ça y est.
Voilà, encore un
et on est parti en psychothérapie. Voilà.
Allez, c'est bien.
C'est
allez.
Merci.
Allez, Léa Lando, fais gagner Cédric, puisque tu es Cinaline.
On dirait deux sœurs jalouses.
Après, on dit que c'est moi la mauvaise.
C'est comment ? C'est dans Cendrillon, c'est Javotte. Et comment elles s'appellent, les deux sœurs, là ?
Ah, je sais pas.
Moi, je suis Cendrillon. Allez.
C'est moi, Cendrillon. Non.
Allez, Javotte, vas-y, fais gagner.
Michael, c'est plus où il est. Non,
je vais peut-être vous laisser, j'ai pas amené ma jupe. Hein, donc.
Oh mon Dieu. Bon Cédric, vous jouez donc avec Léa Lando comme par hasard. Elle est prête, elle est là.
Moi je suis prête. Hein.
Attention, donc un maximum de personnalités qui ont marqué la semaine. Attention, top chrono.
C'est une comédienne qui joue dans tous les films de Clapiche, L'Auberge espagnole et Poupée russe. Elle porte le nom de notre pays. Ok, c'est pas grave. Il est parti dans l'espace. Il est resté 6 mois dans l'espace. Un astronaute. Jeune.
J'ai plus.
Ok, celui qui chante Mistral gagnant, un chanteur. Ta-ta-ta.
Renaud.
Oui. Lui, elle, c'est une actrice belge qui est animatrice télé, qui a joué dans Victoria, 20 ans d'écart. Elle est nommée.
Virginie Ferrat.
Oui. Lui, il joue Catherine et Liliane ou Guy. Il a joué au cinéma il n'y a pas longtemps, un comédien.
Lutz.
Oui. Lui, il est incarcéré au Japon et il a donné sa démission pour Renaud. Oui, joueur de foot.
Ouais. 4 bonnes réponses. Le début, vous n'arriviez pas du tout à vous concentrer, Cédric. Alors, une actrice de Cédric Clapiche, c'est qui ça ? Qui porte le nom de notre pays ? Une actrice belge. Ah bah dis donc.
Bah enfin, qui porte le nom de notre pays ?
Cécile de France.
Cécile de France.
Bah oui, Cécile de France.
Et puis, j'étais sur Charles de Gaulle, j'étais pas loin.
et puis un astronaute qui va retourner dans l'espace.
Emmanuel Macron.
Comment ?
J'ai bien son visage, mais
ah oui, oui, voilà, c'est Thomas Pesquet. Donc vous avez 4 bonnes réponses. Pesquet. Je ne suis pas sûre que ce soit bon pour la thalasso, mais on va voir comment se débrouille Sophie. Oh là là. Sophie, bonjour Sophie.
Bonjour, bonjour à toute l'équipe.
Bonjour, bonjour Sophie.
Alors Sophie, vous avez 30 ans, vous habitez à Auxerre, vous êtes en recherche d'emploi, c'est ça?
Oui, recherche active. Hein.
Active.
Vous cherchez dans quoi?
Dans le commerce principalement.
Dans le commerce à Auxerre.
Dans le B2B
principalement. Ah, B2B.
C'est quoi alors le B2B finalement?
C'est entre entreprises. Et le B2C, c'est entre les entreprises et les particuliers.
D'accord.
Que Jérémy connaît qu'on veut B2B, c'est ça?
C'est ça, c'est ce que j'allais dire.
Il s'est dit, tiens, il y a un nouveau site.
Je voulais m'inscrire.
B2B,
B2B,
c'est les abréviations de quoi, Sophie? B2B.
De business to business.
Ah, voilà, wow. Je cherche genre le business to business.
Ah, c'est plus chic.
Alors, vous dites que vous écoutez l'émission tous les jours et vous aimez beaucoup Jérémy Lorca?
Ah. Oui, oui, je le trouve très drôle et super attachant en fait.
Oh, mais merci, mais quel bon goût.
C'est marrant parce que ses ex ne disent pas la même chose.
Ses ex, ils ont qu'une envie, c'est de se détacher, voyez.
Bah, c'est justement peut-être eux ont mauvais goût.
Ah. Alors vous êtes célibataire depuis toujours, non? C'est-à-dire?
Oui, bah je suis un peu en loose là, à ce niveau-là.
Ah oui.
Alors pourquoi?
Ouais, à la vingtaine, j'attirais les connards qui voulaient que des plans cul, primaires.
Ouais.
Et maintenant, arrivée la trentaine, j'attire les mecs en couple qui veulent aller voir ailleurs.
Ah d'accord.
On a la même vie.
Vivement la quarantaine.
Oui, voilà, c'est ça.
Bon, allez Sophie, vous jouez avec qui?
J'ai joué avec Christine Leroux.
Ah bon? Non, mais elle a dit c'est Jérémy Lorca, mon préféré.
Oui, mais Jérémy, il joue pas souvent.
Ah, c'est un coup de théâtre.
Mais attends, j'ai tout préparé.
On va gagner.
Pour vous faire gagner.
Mais là, on va gagner, c'est bon, on va gagner, je suis très en forme.
Alors, vous choisissez qui? Parce que Jérémy, il est. Alors, vous dites, vous changez ou vous gardez Christine?
Oui, je vais changer, je vais prendre Jérémy.
Ah
bah, c'est attendez, pas sa journée,
attendez,
Christine.
À ce moment-là, moi aussi, je peux commencer à faire la gueule.
Et j'étais pas prête pour cet ascenseur émotionnel. Vous allez me coûter 2 séances de psy.
Oh,
merde. Ça va, c'est remboursé.
Donc, je vais rechanger, je vais prendre
gagner.
Christine.
Allez, allez, vous jouez avec Jérémy, on y va, attention, top chrono.
C'est le garde du corps très célèbre d'Emmanuel Macron.
Benalla.
Oui, c'est la femme de Nicolas Sarkozy, elle est chanteuse.
Carla Bruni.
Oui, exactement. C'est la femme qui a quitté François Hollande pour Julie Gayet. Il l'a quitté pour Julie Gayet.
Trier Veller.
Oui, c'est un créateur de mode qui est très célèbre pour la marinière. Il fait un fashion freak show.
Jean-Paul Gaultier.
Oui, c'est un politicien qui a été très très connu pour l'histoire du dictaphone.
Hein?
Aucune idée.
Ok. Vous savez, il y a un animateur qui s'appelle Michel tous les dimanches sur France 2 et il a une nièce
Drucker.
Qui est actrice. Sa nièce.
Marie Drucker.
Non, l'autre. Actrice.
Je connais pas.
Une blonde. Ok. C'est un mec qui bavait politique.
Ouh là là,
l'ex-écho.
Ex-écho, quatre bonnes réponses. C'est quoi cette histoire de dictaphone?
Bon, hein. Bah, Laurent Wauquiez, le dictaphone.
Mais Laurent Wauquiez, tu veux dire le président des Républicains?
Mais il est républicain, le dictaphone.
Et il y avait Alain
mais quel
Juppé,
dictaphone?
Mais ouais, t'as Juppé.
Et il y avait Juppé, le maire de Bordeaux.
Celui qui bavait.
Mais enfin. T'avais Gilles Lelouche. Gilles Lelouche.
Quatre bonnes réponses, j'ai pas été si nulle quand même.
Oui, mais enfin, il y avait de quoi lui faire. Elle a été très rapide.
Il y avait de quoi la faire gagner.
Ah, quel dommage, moi qui disais que j'étais très en forme.
Peut-être que c'est le mauvais choix finalement.
Oh, non.
Non, je plaisante.
Bon, alors bah, vous êtes ex-écho tous les deux, Cédric et Sophie.
Oui.
Alors vous êtes prêts tous les deux?
Oui.
Cédric,
oui.
Vous êtes prêts?
Oui.
Le premier qui répond gagne 3 jours en thalasso au Thalazur Antibes. Concentrez-vous. Attention, secrétaire d'État aux droits de la femme qui va animer un débat avec Cyril Hanouna. Oui,
c'est
ouais. Sophie.
Je vous ai porté bonheur.
Oh l'autre,
ça
va être
rattrapé.
Merci Jérémy.
Ah, je vous en prie.
Sophie, vous avez gagné à l'occasion du salon des Thermalies une escale détente zen 3 jours, 3 nuits à l'hôtel Baie des Anges, Thalazur Antibes, qui fait partie des 9 instituts Thalazur Thalassothérapie et Spa en France, des hauteurs d'Antibes, avec une vue imprenable sur la Baie des Anges. Vous découvrirez des soins hydromassants, des modelages Thalazur pour vous remettre des fêtes et des réveillons. Rendez-vous sur thalazur.fr.
Oh, génial, merci beaucoup.
Vous allez partir avec qui, Sophie?
Bah, en fait, ma meilleure amie habite dans le sud, donc je pense que je vais en profiter pour l'inviter, et puis comme ça, on se verra un petit peu.
Un cri de joie, Sophie.
Oui.
Ah, si vous faites ce bruit-là avec les hommes, je comprends qu'ils se barrent. Hein,
maintenant. Ouais, c'est clair.
Enfin, tu fais comment, toi?
Bon, moi, c'est tout en sensualité.
Ah,
Cédric.
Oui, Anne.
Vous avez quand même gagné deux places de cinéma pour le film Green Book avec Viggo Mortensen qui est sorti hier au cinéma en partenariat avec Europe 1.
Merci beaucoup.
Est-ce que je peux ajouter que c'est un film sublime?
Ouais, il est superbe.
Vraiment.
Et puis, vous avez le droit de rejouer avec nous d'ici un mois. Et puis, refaites-nous la promo de votre pièce. Allez, on est gentils.
Et venez nous voir à la comédie Oscar de Claude Magnier au théâtre de la Comédie Saint-Michel, tous les mercredis et les dimanches.
Très bien, merci.
Excusez-moi, dans quelle ville?
À Paris.
Merci.
Merci à tous les...
En face du Jardin du Luxembourg.
En face du Jardin du Luxembourg. Merci à tous les deux, continuez à nous
Bravo.
Écouter.
Au revoir.
Bonne journée à tout le monde.
À bientôt.
Merci.
Pour jouer avec nous, laissez un message et vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros la minute, ou via le formulaire de l'émission sur le site www.europe1.fr.
Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Léa Landau, Christine oui. Bérou, Jérémy Lorca, Mickaël Quiroga yes. qui nous expliquera pourquoi le grand débat l'intéresse.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Sur Europe 1 ce vendredi avec Mickaël Quiroga, Léa Landau, Christine Bérou, Jérémy Lorca. Alors, il y a une épidémie de grippe qui touche toute la France, sauf la Normandie. Est-ce que vous êtes déjà tombé malade cet hiver? Quel genre de malade vous êtes, Jérémy?
Oh bah moi, quand je suis malade, je suis un vrai warrior. Hein. Je passe mon temps à répéter « Je vais mourir !»
Comment? On n'a rien compris. Qu'est-ce que tu dis?
« Je vais mourir !»
Avec une voix de mec, ça fait « Je vais mourir
!»« Je vais mourir !»
Bah tu vois, tu peux avoir une voix grave aussi.
Évidemment, je rigole.
Allez, montre-nous ta voix grave.
Alors moi, quand je suis malade, je suis un vrai warrior. Je passe mon temps à répéter « Je vais mourir !» Ça va?
C'est quand même difficile pour ouais. lui. Hein.
Ça fait beau.
Je savais pas que t'avais autant de grave dans ta voix.
J'ai beaucoup de grave, je suis très grave.
Ça, très grave, on s'en était aperçu.
Ouais.
Mickaël, quel genre de malade vous êtes?
Ah, moi, je suis le genre de malade vraiment courageux. Et moi, quand je suis malade, par exemple, bah, je viens au boulot quand même.
Ah bah, vraiment, c'est bien ça.
Bah oui, là, par exemple, je suis venu bosser alors qu'en fait, j'aurais pas dû. Je suis hyper contagieux.
Et t'as embrassé tout le monde.
Christine?
Mais moi ça va super bien, mais par contre je m'inquiète pour vous Anne, parce que vous êtes tout le temps malade, vous me dites tout le temps Christine je vous fais pas la bise, je suis malade.
Non, je vous dis juste Christine je vous fais pas la bise, tout court.
Et bim.
Mickaël Quiroga.
Oui.
Le grand débat, ça vous intéresse?
Bien sûr, oui Anne, bien sûr que ça m'intéresse, je ressens même plus que de l'intérêt, je dirais de l'émotion moi, quand je vois certaines personnes, des monsieur, madame, tout le monde, qui s'impliquent dans ce qui se passe, il y a de quoi être ému, il n'y a pas d'autre mot quoi, je veux dire ému comme un enfant devant son premier feu d'artifice. Ému comme Jean-Luc Mélenchon devant un portrait de lui-même. Ému comme Alexandre Benalla devant un passeport diplomatique à son nom. Alors, c'est vrai qu'Alexandre Benalla, diplomate, il y en a que ça a pu choquer. Mais est-ce que c'est... est-ce que ce n'est pas justement pour ça que les Gilets jaunes se battent? Je veux dire, pour briser les plafonds de verre. Et pourquoi est-ce qu'Alexandre Benalla ne serait pas diplomate? Je veux dire, parce qu'il n'est pas du sérail? Parce qu'il n'a pas la carte? Parce qu'il n'a pas le brevet des collèges? Non, c'est tout le débat.
Il a fait des études, hein.
Oui, je sais, mais ça ne m'arrangeait pas pour la vanne.
Ah bah oui, mais faut dire la vérité quand même. Il est bac plus 3 ou je sais pas.
Ouais, moi je suis humoriste, je suis pas journaliste. Alors donc, débat qui continue ce soir d'ailleurs dans l'émission spéciale de Cyril Hanouna et de Marlène Schiappa, initiative déjà très critiquée. Vous avez entendu Christian Estrosi, bien sûr. Il a dit que si le journal du Hard existait encore, Madame Schiappa irait. Moi, ça m'a choqué et j'ai deux questions. La première, c'est comment un élu de la République peut se permettre de parler comme ça? Et la deuxième, c'est comment est-ce que Christian Estrosi sait que le journal du Hard n'existe plus? C'est Cyril Hanouna qui animera le débat. Marlène Schiappa, elle, je le précise, ne servira que de médiatrice entre les Français et le président. Puis elle repartira avec 7 propositions des Français qu'elle soumettra au gouvernement. Parce que bon, apparemment, le gouvernement n'a pas la télé. Alors, je ne suis pas médium, hein, mais je me doute déjà de ce que seront les 7 demandes principale qu'elle devra transmettre. Hein. Bon, ben, en premier, de l'argent, hein, sûr. En 2, des sous. En 3, de l'oseille. En 4, du blé. En 5, de la thune. En 6, du grisby. Et en 7, s'il en reste un petit peu, du pognon. Mais bon, ça fait partie du grand débat qui, à mon avis, ne va pas être simple. Parce que déjà qu'on se tape dessus pour savoir s'il faut dire pain au chocolat ou chocolatine. Donc vous imaginez bien que la discussion sur l'ISF, par exemple, elle promet d'être rock'n'roll. Petite précision quand même, parce que j'entends partout que l'ISF a été supprimé, c'est faux. Il a été modifié. Voilà, maintenant on ne prend en compte que l'immobilier. Ils disent que c'est pour libérer l'argent afin que les riches l'investissent et le fassent ruisseler sur nous. Bon, voilà. Je vous cache pas que ça ruisselle pas des masses et que beaucoup sont dubitatifs. Hein. Ceux qui critiquent la modification de l'ISF disent que si certains très riches ont fraudé, c'est donc qu'à la base, on peut pas leur faire confiance. Vous voyez, pour eux, c'est un peu comme si on avait donné les clés d'un coffre à Patrick Balkany en espérant qu'il prenne pas tout. A priori, ce sera un débat élargi puisque certains politiques se sont même débrouillés pour faire surgir leurs propres revendications au milieu de celles des gilets jaunes, comme l'immigration par exemple. Alors pour ceux qui ont un problème avec les migrants, pour ceux que le problème des migrants inquiète, moi j'ai une idée. Parce que un migrant, c'est quoi ? C'est un étranger. Bon, ben, vous lui rajoutez un bob, un appareil photo, ça devient un touriste. Problème réglé ! Comme quoi, parfois, en se creusant un petit peu la tête, on peut trouver des solutions simples à des problèmes compliqués. En tout cas, moi, l'émission de Cyril Hanouna et de Marlène Schiappa, ce soir, je vais la regarder, ne serait-ce que pour voir en quoi il va nous la déguiser.
Alors, vous savez que les auditeurs nous laissent des messages sur le répondeur de l'émission au 3921. On en écoute quelques-uns.
Bonjour, c'est un message pour Léa Landau. Je tiens à la féliciter car je sais qu'elle a participé récemment au festival de l'Alpe d'Huez. Et je voulais savoir si, pour son film, elle s'est inspirée de sa vie amoureuse. C'est bien un court-métrage. Encore bravo.
Non mais c'est abusé.
C'est abusé quoi?
Bah enfin, il exagère. Qui est ce monsieur? Il a pas laissé son nom.
Ah, un autre message pour Mickaël.
Bonjour. Je vous appelle pour dire à Michael que j'adore sa voix rauque et sensuelle. Ah. Par hasard, il ne serait pas le fils caché de Macha Béranger du Père Foura ?
Du Père Foura.
Le Père Foura, il fait ce qu'il veut, mais il ne m'a pas mis au courant. Hein. Voilà, non, mais si on peut arrêter de me parler de ma voix et un petit peu parler de mon physique avantageux de temps en temps, ça serait sympa.
Oh, mais ta voix, c'est ton principal atout. Quand même.
Bah, merci beaucoup, je vais y aller. Hein, j'avais investi.
Un peu comme Christine.
Oui, moi aussi, ma voix, c'est,
non, c'est pas ton atout,
atout,
c'est ton principal.
T'imagines
problème.
Si on faisait un enfant, la voix qu'il aurait.
Ah ouais. Ce serait génial.
La puberté
la
du pauvre
voix,
gamin.
La voix bipolaire.
La voix bipolaire. Bonjour papa. Bonjour maman.
Ah, encore un message pour Léa. Ah.
Léa, c'est maman. Arrête de parler de ton célibat à la radio. Ça se fait pas. Parle plutôt du mien. Je suis plus âgée, mais j'ai la priorité.
Ils sont tous en galère dans la famille.
Ah, encore pour Mickaël qui regarde.
Ah ben, c'est la fête.
Oui, bonjour, Mickaël qui regarde, c'est ton coiffeur. Dis donc, je suis inquiet, ça fait 17 ans qu'on s'est pas vu. Reviens quand tu veux, il y a du boulot.
Bon, ben, finalement, ne parlez pas de mon physique avantageux.
C'est vrai, vous n'allez pas chez le coiffeur, Mickaël ?
Non, moi, je vais chez le jardinier, ça se taille des cheveux comme ça, ça se coiffe pas.
Il n'y a pas de message pour vous, Jérémy.
Jamais, oh, moi, c'est à l'image de ma vie.
Oh. On non, m'oublie. Tu nous fais de la peine.
Mais non, en fait, tu es très heureux.
Bon, je vais pleurer, on arrête.
Europe 1. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Mickaël Quiroga, Christine Béroux, Jérémy Lorca, Léa Landau et nos deux invités, Titoff et Thaïs, pour la pièce Amoureux, actuellement au théâtre de 10h à Paris.
Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce vendredi avec Mickaël Quiroga, Léa Landau, Christine Béroux, Jérémy Lorca.
Yes.
Et nos premiers invités qui forment un joli couple sur scène. Elle est humoriste et comédienne, lui il est humoriste et comédien. Ensemble, ils sont amoureux aux têtes de 10h à Paris. Signe particulier, elle a un léger accent marseillais, elle a une légère différence d'âge avec lui. Accueillons Thaïs et Titoff.
Et bonjour.
Bonjour Thaïs et Titoff.
Bonjour.
Anne Romanoff.
Alors, vous jouez...
J'ai failli pas vous reconnaître.
Pourquoi ? Tellement j'ai embelli. Et vous, Thaïs, vous avez 26 ans. Et vous,
oui, 26 ans.
Et vous l'avez trouvé sur Internet. Vous avez écrit cette pièce. Vous cherchez... Parce que moi, en fait, quand j'ai vu, je me suis dit, c'est sa nouvelle copine. Ou ouais, j'ai imaginé.
Non, c'est toujours ma femme.
Mais oui, c'est bien.
Dans la vie et sur scène, on interprète ce couple. Alors, je l'ai trouvé sur Internet. Alors, j'étais sur YouPorn.
Voilà.
Si je ne la fais pas, elle ne se sent pas bien.
Oui, c'est
si
vrai.
Je
des fois, je lui demande non, de la faire.
Vous aviez écrit, vous aviez envie de parler des différences d'âge, de l'époque.
Oui, je trouve qu'on est nombreux à faire du ce qu'on appelle le stand-up.
Oui, il y a un peu trop de monde maintenant.
Ce n'est pas qu'un trou, il y en a beaucoup.
Donc, vous avez dit que vous alliez vous démarquer en faisant
j'ai joué dans une pièce de théâtre il n'y a pas très longtemps qui a bien marché.
C'était
j'ai dit,
laquelle,
tiens, on va faire un compromis. Ça s'appelait Inséparable.
Inséparable, oui.
Et donc, j'ai dit, tiens, ça, j'aimerais bien écrire pour un duo. Et l'idée est venue comme ça, juste en regardant autour de moi.
Beaucoup
de couples, oui, dans les deux sens. Hein.
C'est plus souvent des hommes. Plus jeunes, hein.
Et je voulais pas faire la jeune bimbo avec le vieux beau, voilà, qui allait dégarni avec la décapotable. Je voulais faire quelque chose de plus actuel. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de couples qui ont entre 10 et 20 ans de différence. Et franchement, on ça choque moins, je pense, qu'il y a une certaine époque. On n'en parle plus. Sauf que quand on a 46 ans, on a 46 ans. Et en fait, je me fous plus de la gueule
des gens de 46 des ans mecs, que des gens.
Que des, voilà, voilà.
Que... Et vous dites que c'est une pièce qui redonne le moral aux femmes qui se sont fait quitter pour une plus jeune.
Je pense qu'il y a quelques nanas qui. Il y a des rires dans la salle et qui sont différents des autres rires.
Le rire thérapeutique.
Voilà, parce que là, le mec galère. Quoi,
et vous, Thaïs, au départ, vous faites du one woman show et vous continuez à en faire d'ailleurs au petit Palais des Glaces, c'est
exactement,
ça
Exactement,
oui. Tous les mardis.
C'est ça.
Et puis donc, il a vu vos sketchs sur internet et vous êtes rencontrés, et ça a tout de suite collé entre vous.
Ouais, bah, je suis arrivée dans le bureau, on a pris un fou rire, je sais pas trop pourquoi.
Vous êtes bourré.
Et on s'est tout de suite super bien entendu. Et après, je suis allée chez lui à Marseille pour qu'on répète et tout ça. Du coup, je pense que ça sent sur scène quand il y a une belle complicité dans la vie aussi.
Et donc, dans le personnage de votre spectacle, est accro à son portable, photographie tout sur Instagram. Elle est blogueuse, c'est ça?
Ouais, blogueuse influenceuse.
Et donc, dans la mise en scène, on voit les écrans de vos portables avec les textos que vous envoyez, qui ne sont pas les mêmes, évidemment, pour chacun des deux, parce que vous n'avez pas le même âge.
Ah, ça plaît beaucoup.
Ouais.
C'est en partie, voilà, c'est régulièrement, comme dans la vie. C'est-à-dire qu'elle m'envoie, je suis dans la cuisine en train de préparer un wok de poulet, et elle m'envoie des textos.
Tu peux m'amener une bière, s'il te plaît. Ça le rend dingue, mais pourquoi tu ne te lèves pas?
Ou alors on voit aussi des références à Instagram, il y a des petites vidéos. Voilà, il y a des références aussi aux années 80. Et puis c'est pas uniquement sur les couples, c'est sur le temps qui passe et sur les différences de génération, où tout le monde veut rester jeune, moi le premier, malgré que j'ai pris un peu de poids. Mais en tout cas, ça concerne pas que les couples et les couples qui ont une différence d'âge, ça concerne tout le monde parce que voilà, il y a des moments où on se sent largué, un moment où on sait plus si on est trop addict aux réseaux sociaux ou pas, ou si on est trop vieux ou pas.
Thaïs, vous êtes heureuse de cette aventure?
Ouais, grave, putain, mais je suis une ado. je suis super contente, franchement. J'adore le rôle, en fait. Déjà, la première chose que je me suis dit quand j'ai lu, c'est que Titoff, il joue son propre rôle, enfin à peu près une version de lui, et il a beaucoup d'autodérision, donc c'est cool, j'aime bien les gens qui sont capables de se foutre d'eux-mêmes. Et moi, mon personnage, c'était pas la nunuche, c'était pas la jeune un peu bon, elle est un petit peu quand même parce que j'ai un rire nul, mais non, elle est de son temps, quoi. Elle connaît plein de choses et en même temps elle a un côté un peu superficiel mais qui va avec le reste. Et finalement, c'est une autre façon de savoir des choses, savoir utiliser les réseaux sociaux, c'est aussi un savoir, quoi. Donc non, j'ai beaucoup aimé, on s'amuse bien, ça se passe super bien, donc croisez les doigts, quoi.
Eh ben, on croise les doigts avec vous. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission avec Titoff et Thaïs.
Europe 1.
Moi, je suis lyonnaise.
Actuellement, au théâtre de 10h à Paris, du jeudi au samedi à 20h, un spectacle très drôle qu'on vous recommande, Amoureux, sur le couple et la différence d'âge et les réseaux sociaux. Ne bougez pas.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1.
Et super jingle. C'est génial. Qui a fait? C'est vous qui avez fait?
Non, mais je ne sais pas faire des jingles.
C'est génial.
Ça vous plaît?
Oui, comme un coup de foudre, quoi.
Mais j'allais vous re-annoncer, Tito.
Alors, pardon.
Mais non, mais on va
relancer le jingle.
Allez, on relance le jingle. Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 avec Titoff et Thaïs, actuellement au théâtre de 10h du jeudi au samedi à 20h, un spectacle très drôle qui s'intitule Amoureux. Vous jouez un couple avec une différence d'âge qui est réelle dans la vie, mais je rappelle que vous n'êtes pas en couple. Thaïs, vous avez un amoureux?
Oui.
Ah, c'est bien. Titoff, je vois que vous avez aussi été remarqué. Alors, vous avez été remarqué par Romain Bouteille, Jean-Luc Delarue, Dominique Farrugia, Thierry Ardisson. Tous ces gens-là, ils sont venus vous voir et vous ont remarqué.
Le même jour.
Ouais. Et comment ça se fait qu'on vous ait remarqué comme ça?
Ben, je sais pas.
Donnez-nous des tuyaux.
Non, moi j'ai rien. Je jouais. Et puis c'est Jean-Luc Delarue en premier qui cherchait des gens pour faire une série, c'était à l'époque de H et tout ça. Puis j'étais avec ma petite troupe à Marseille. Puis il a aimé le spectacle. Et ensuite, Dominique Farrugia, qui était un ami de Jean-Luc. est venu voir le spectacle. Il a beaucoup ri quand il est dans la salle, c'est génial parce qu'on reconnaît son rire. Et après, il avait fait la mise en scène de mon premier spectacle. Et Thierry, il est venu, pareil, un soir. Quand je suis arrivé, je connaissais strictement personne dans le métier. Et c'est chaque fois que les gens sont venus voir mon spectacle.
Mais à l'époque, si je me rappelle, c'était très frais, très nouveau ce que vous faisiez. Est-ce qu'aujourd'hui, ça aurait pu se passer comme ça?
Je pense qu'elle est. En fait, c'est les générations. Moi, je suis très fier de ce que je fais avec Thaïs parce qu'elle est. C'est une bombe atomique. Vraiment sur scène, les gens vont. Voilà, dès que chaque fois que les gens sortent de la scène, disent waouh, quelle actrice, elle apporte quelque chose de nouveau parce que c'est très frais, elle a un phrasé, tout ça qui est très très moderne. Donc je suis très fier de l'avoir découvert et c'est un peu le but. Maintenant, chaque génération, moi je me rappelle à mon époque il y a 20 ans, pour les anciens humoristes, tout le monde disait pour Eric Ramzy, Jamel ou moi, on dit waouh, ça va trop vite, il suffit qu'ils passent à la télé pour remplir les salles. Et là, on a fait la même chose quelques années après pour tous les Norman, tout ça, les gens qui sont créés tout seuls, tout leur public. Sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc, chaque génération emmène son lot de nouveautés. Voilà, c'est ce que je pense.
Et Thaïs ?
Oui.
Dans votre spectacle, un des pitchs de votre spectacle, c'est si vos parents sont encore plus immatures que vous, c'est le cas ? Vos parents sont immatures ?
Complètement, oui. La pièce, elle me parle aussi parce que mon père est souvent avec des nanas de mon âge. Ouais. Voilà. Donc, j'aime bien leur faire toujours les mêmes blagues, genre. On n'a pas passé le bac ensemble.
Copine de votre père, vous leur dites quoi ?
On n'a pas passé le bac ensemble.
Et qu'est-ce qu'elles disent, les copines de votre père ?
Non.
J'ai pas le bac.
Le quoi ? Non.
Et votre père est venu voir le spectacle, Thaïs ?
Ouais, mais c'est compliqué parce que... Il va me tuer. Il venait de se faire larguer par une nana de 28
ans.
Mais vraiment, juste, il venait juste, et il est arrivé et je lui ai dit « Ah, ça t'a parlé ?» Il me fait « Oui ».
Donc voilà. N'avez jamais eu peur de ramener des copines à la maison, du coup ?
Si. Mais en fait, parce que je suis partie à 19 ans, donc il était quand même pas en train de taper dans les 19 ans, donc ça va.
J'ai moins d'écart d'âge avec ses parents, logiquement, Thaïs. Ils sont adorables, ses parents sont adorables. Mais vraiment. Et d'ailleurs, dans le spectacle. Je vais pas faire de vanne sur tes parents, mais dans le spectacle, il y a un passage comme ça qui plaît beaucoup. Elle me dit, sexuellement, ça me bloque le fait d'avoir quasiment le même âge que tes parents, ça me bloque. Mmh. Et elle me dit que moi, le fait d'avoir quasiment le même âge que ta fille, ça te bloque pas. Ouais. Et là, je dis, non, tu vois, ça, c'est différent.
Merci Titoff et Thaïs d'être passés nous voir. On rappelle le spectacle Amoureux, actuellement en tête de 10h du jeudi à samedi à 20h. Un spectacle très drôle sur le couple, les différences d'âge, les réseaux sociaux et l'amour.
Merci.
Merci beaucoup.
Dans quelques instants, c'est Michel Onfray, le philosophe, qui sera notre invité. Ne bougez pas.
Il a fait un stand-up.
Midi 30, Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Mickaël Quiroga, Léa Landau, Christine Leroux, Jérémy Lorca.
Oui.
Et notre invité, il est l'enfant terrible de la philosophie contemporaine. Adulé ou détesté, il ne laisse personne indifférent. Qu'il dépoussière Nietzsche ou qu'il tacle Freud, le lectorat est toujours au rendez-vous. Et Donis, curieux, amoureux de la Normandie, qu'il a toujours refusé de quitter. Il écrit comme il respire, puisqu'il peut publier jusqu'à 5 livres par an. Aujourd'hui, il va nous parler des philosophes romains dont il blanchit la mémoire dans son livre Sagesse, savoir vivre au pied d'un volcan. Le sage, mais néanmoins passionné, Michel Onfray, est avec nous ce matin. Bonjour Michel Onfray.
Bonjour.
Alors bienvenue sur Europe 1, vous nous parlez de votre livre Sagesse, savoir vivre au pied d'un volcan. C'est qui exactement votre Vésuve à vous ?
C'est le monde comme il va, c'est aussi la France qui s'effondre, l'Europe d'une certaine manière qui s'effondre également, et c'était une métaphore. J'ai failli utiliser le Titanic, mais comme je voulais ne parler que des Romains, je me suis dit effectivement le Titanic chez les Romains ça pouvait pas marcher.
Alors vous entrez régulièrement en éruption Michel Onfray, vous n'avez pas atteint la sagesse ou vous n'avez jamais été sage ?
Ah, je crois que la sagesse n'exclut pas la colère, au contraire. Je crois que la colère peut être maîtrisée. Il y a des colères rationnelles, vous savez, comme des acteurs qui jouent la colère, et puis on leur dit, on arrête, quoi, on coupe, et voilà, la colère est finie, puis on redémarre. Donc je crois que la colère est une méthode, et qu'on peut être sage et déchaîner la colère quand elle est nécessaire, et puis l'arrêter quand c'est nécessaire aussi. La sagesse, c'est la maîtrise.
Là, vous n'allez pas vous mettre en colère ce matin.
Ça dépend ce que vous allez me dire.
Oh là là. Alors, c'est le troisième volet de votre brève encyclopédie du monde, 500 pages à chaque fois. Qu'est-ce que ça donne quand vous décidez de développer? Parce que brève encyclopédie, 500 pages.
Eh bien, ça va donner 6 volumes, parce que je vais développer sur 6 volumes. Et encore, quand je suis parti sur Cosmos, là, je m'étais dit 3 volumes suffiront. Là, après 2, enfin j'ai décidé après 2, mais j'ai décidé après 3 qu'il y en aurait 6. Peut-être qu'après 6, je déciderai qu'il y en aura 12, on verra.
Vous écrivez tout le temps, Michel Onfray?
Oui, tout le temps, oui.
Vous voulez pas écrire des chroniques pour des gens qui n'auraient pas le temps d'écrire dans le temps, leur travail, non?
Ça, je pourrais très vite.
Vous partez jamais en vacances, vous dites? Pas de dîner entre amis, pas
non,
de vacances?
Enfin, jamais de dîner. D'abord, j'habite en province, j'habite en Normandie, donc il n'y a pas de dîner mondain. Enfin, il y a des dîners mondains, hein. J'ai les sous-préfectures ou les préfectures, Saint-Paris aussi.
Donc vous n'avez pas eu la grippe, vous non plus? Alors.
Vous n'entendez pas ma voix là. D'abord, je suis vacciné, mais ensuite, j'ai chopé dans une saloperie qui traîne. Il y a 2 jours, j'ai failli franchement perdre ma voix. Là, j'ai pris de la cortisone pour être avec vous.
Oh, c'est gentil.
Je vous en prie.
Et ça vous donne une voix sexy.
Oh, bah d'accord.
Mais qu'est-ce que tu fais?
Et encore, on ne m'avait pas rencontré hier.
Léa, fin, pardonnez-la.
Bah enfin, dis donc.
Parce que Michel Onfray, je me rappelle que la dernière fois que vous êtes venu dans l'émission, c'est très bien passé. Et à un moment, vous avez parlé, râlé contre les gens en trottinette, ce qui était totalement anodin.
Oui, bah oui.
Et c'est devenu un buzz. Bah oui. Ça a été repris par le site de l'Express. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, ce mec, tout ce qu'il dit, ça déclenche les trucs. Quoi. Même parce que râler contre les gens en trottinette, il n'y avait rien
d'extraordinaire.
De transgressif dans
ce
propos.
Si, parce qu'en fait, vous savez, la sociologie dit que tout ce que vous faites vous signale qui vous êtes. Et effectivement, un ouvrier cégétiste de Longwy, c'est peu probable qu'il roule en trottinette.
Vous allez remettre ça, attention, dans la suite du trottinette gate.
Moi, ça ne me gêne pas de taper sur les clous qui sont déjà partiellement enfoncés. Et donc, il y a effectivement une sociologie du trottinetteur, si l'on veut, ou du patineur. C'est une sociologie du bobo. Ce sont des gens qui défendent la pensée de Giscard d'Estaing, mais qui ne veulent pas être de droite, donc ils prétendent qu'ils sont de gauche, donc effectivement, ils défendent Macron, ou ils défendent jadis Hollande. Ils trouvent qu'il ne faut pas fumer, parce que fumer, c'est dangereux, c'est toxique, mais ils fument des pétards. Etc. etc. Enfin, il y a une espèce de. Il y a une pensée qui va avec la trottinette.
Michel Onfray, comment vous réagissez quand même quand vous déclenchez des fois des haines? Comment vous faites? Ça glisse sur vous? Vous faites appel aux philosophes justement pour être impassible? Comment ça se passe?
Et alors, il faudrait que je vous parle dans le temps pour ça. Parce qu'effectivement, il y a eu une époque où ça m'atteignait. Parce que je trouvais que c'était très injuste. Mais oui, on dit, mais j'ai pas dit ça, j'ai pas fait ça, je l'ai pas dit comme
on
ça.
On extrayait une phrase de vos propos.
Absolument, mais bien sûr. Mais à chaque fois qu'il y a des endroits où je sais très bien que quand j'y vais, on va me ressortir à nouveau l'article paru dans le Figaro il y a 5 ans et la phrase très précise dans laquelle il y a le mot qui ne convient pas. Donc j'ai l'habitude de ces choses-là. Donc au départ, on se dit, mais c'est pas juste, c'est pas normal. Enfin, je vais m'expliquer. Et puis en fait, on comprend que c'est pas du tout ça le problème, que les gens cherchent une occasion de me taper dessus et que globalement tout fait l'affaire. Donc une fois c'est la trottinette, une fois c'est le peuple old school, c'est enfin voilà, on crée des polémiques sur ce genre de choses. Et puis il y a cette belle phrase de Nietzsche que tout le monde utilise mais que je trouve très efficace, il dit « ce qui ne me tue pas me fortifie ». Il y a un moment donné où on en a tellement pris dans la figure, et plus que ça, je veux dire, bon, que je sois un sale type méchant, c'est une chose, mais quand on dit après que je suis antisémite, quand on dit que je suis compagnon de route de Daesh, c'est quand même plus violent, c'est quand même... des choses dont on se dit qu'est-ce que ça va laisser comme trace, quoi. Les gens qui nous aiment disent, mais j'ai entendu ça, c'est pas vrai. Enfin, je dis, mais non, c'est évidemment pas vrai, j'ai pas dit ça. Tu justifies le terrorisme? Je dis non. J'ai dit, mais nous récoltons nationalement ce que nous avons semé internationalement. Oui, mais ça veut dire, mais j'ai jamais défendu le terrorisme. Je fais un travail de philosophe qui consiste à expliquer. Le problème, c'est pas de dire c'est pas bien, le terrorisme, ça tout le monde peut le faire. Le travail du philosophe, c'est la généalogie. D'où ça vient? Alors évidemment, au départ, les polémiques blessent. Par la suite, on se dit, mais non, si on fait vraiment un travail de philosophe et qu'on pose la question du pourquoi ça marche comme ça, comment ça s'est passé, eh bien vous déclenchez des haines, des hystéries, vous dites, en fait, c'est bon signe. Et je vais pas dire que d'une certaine manière, plus il y a de polémiques, plus je me dis c'est bon, je suis dans le bon sens. Mais je veux dire que je suis passé d'un moment où ça m'affectait, il y a une vingtaine d'années, à un moment aujourd'hui où je me dis, peu importe ce que de toute façon il sera dit sur moi. Alors bon, les campagnes, les calomnies, tout ça, voilà, on se dit, on ouvre le parapluie, la pluie va bien s'arrêter de tomber, et puis la vie continue. Europe 1.
On se retrouve dans un instant pour continuer la vie avec Michel Onfray, ne bougez pas.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Mickaël Quiroga, Lalando, Christine Bérangère, Jérémy Lorca et notre invité Michel Onfray venu nous parler de son livre « Savoir vivre au pied d'un volcan ». Alors vous dites que ce livre est un hommage à un de vos professeurs de philosophie qui les a beaucoup marqués. C'était votre maître, Lucien Gerfagnon, pouvez nous en parler ?
Oui, c'est quelqu'un que j'ai rencontré quand je suis arrivé à la fac, un peu perdu. Je veux dire, j'ai eu une enfance un peu problématique, des coups, un orphelinat, enfin bon, voilà. Et je découvre Lucien Gerfagnon qui devient mon maître. J'ai 17 ans, ça me change la vie de voir un homme qui me dit qu'on peut être moral sans passer par le christianisme. Il m'enseigne Lucrèce, qui est un philosophe romain, sur lequel on sait peu de choses, mais qui a écrit un grand poème qui s'appelle « De la nature des choses ». Et « De la nature des choses » nous parle du désir, du plaisir, de la morale, d'autrui, des femmes, de l'amour, de l'amitié, etc. Et de manière matérialiste. Lucrèce nous dit « Il n'y a que de la matière ». Et d'un seul coup, moi qui ai été fabriqué par les prêtres et par le catéchisme, qui ne croit pas en Dieu et qui se dit « mais comment est-ce que je peux être moral ?» Je découvre qu'on peut être moral sans croire en Dieu.
Quand vous parlez de vos parents, vous dites que votre père était un sage, quelque part, et votre mère, ça a été très compliqué. Et ce que je ne comprends pas, c'est comment votre père, qui était tellement formidable, vous le décrivez, a laissé votre mère vous maltraiter comme ça, sans rien faire.
Oh, ça, j'en parlerai le temps venu. Mon père n'est plus là, ma mère est encore là, et je dis des choses que je ne devrais même pas dire. Je m'étais proposé de dire ça beaucoup plus tard. Mais c'est difficile d'arrêter la violence de quelqu'un. C'est difficile. Et c'est même pas difficile, c'est impossible. Donc soit vous entrez dans un conflit et vous ajoutez de la violence à la violence et ça marche pas, vous jetez de l'huile sur le feu, soit effectivement vous attendez que ça se passe et puis vous passez votre vie à attendre que ça se passe parce que rien n'est possible devant quelqu'un qui se comporte comme ça. Alors après ça se calme parce que vous avez les moyens de répondre. Donc effectivement les enfants battus cessent d'être battus quand ils ne sont plus des enfants, quand ils cessent d'être des enfants. Puis après il y a tout un mécanisme de défense. Questionnez ma mère, elle vous dira qu'elle m'a évidemment jamais frappé, qu'elle m'a jamais mis à l'orphelinat mais dans une école où on fait des bonnes études, qu'elle m'a pas foutu à la porte quand j'avais 17 ans et que je suis parti à ce moment-là et que j'ai payé mes études moi-même, etc. Elle me dit partout, mais vous savez, il a un doctorat, c'est quand même Bac plus 8, les 8 années d'université, je me suis quand même saigné au Cadven pour lui payer des études. C'est pas vrai, je suis parti à l'âge de 17 ans. Puis par le savoir de Lucien Gerfagnon. Donc ce sont des maîtres qui m'ont construit. Et j'ai essayé par la suite, en créant l'Université Populaire,
de transmettre à nouveau.
Voilà, de rendre ce que j'avais reçu.
Vous avez une très belle relation avec votre père, parce que vous l'avez, pour ses 80 ans, vous l'avez amené au pôle Nord. C'était une promesse que vous lui avez faite des années avant.
Oui, on était dans un champ, on plantait des pommes de terre. Mon père avait un petit bout de jardin dans un champ et il y avait une alouette qui grimpait, là, qui passait et puis un avion qui traversait le ciel. Il y a toujours une ligne sur ce champ-là. Et je lui dis, mais si tu avais un billet d'avion gratuit, où est-ce que tu irais ? Vraiment, c'était très improbable à l'époque.
Vous aviez quel âge ?
On crevait la faim, j'avais 8 ans. Mon père avait un salaire d'ouvrier agricole, ma mère un peu d'heures de ménage. Je vous assure que les gilets jaunes, c'était aussi à la maison. Et donc mon père me dit, je ne sais pas, peut-être au pôle Nord. J'ai dit, mais pourquoi ? Et mon père me dit, comme ça. Puis c'était du genre, maintenant, allez, on se remet aux patates, quoi. On a autre chose à faire. Et un jour, je lui dis, mais tu sais, il avait fait un problème coronarien pour ses 60 ans. D'ailleurs, l'âge que j'ai. Et à l'hôpital, on se retrouve, et puis il y a des longs silences. Et à un moment donné, je lui dis, tu sais, un jour, je t'ai posé cette question, te souviens-tu de la réponse que tu m'avais faite ? Il me dit, ah oui, j'avais dû te dire le pôle Nord. Je dis, mais pourquoi ? Il me dit, je sais pas, comme ça. Et comme j'avais un vieux papa, je dirais, quand je suis né, il avait 35 ans, je crois, et que longtemps, on m'a dit, ah, c'est ton grand-père. Je dis, non, c'est mon père. Donc, j'ai toujours eu peur qu'il parte tôt. Et en fait, à ses 80 ans, je lui dis, écoute, tu sais, cette histoire du pôle Nord dans le champ, si tu veux, on le fait, je t'emmène au pôle Nord. Et donc, on est parti au pôle Nord, j'ai écrit un petit livre qui s'appelle L'esthétique du pôle Nord. Voilà. Et donc, je fais des conférences un peu partout, le Japon, l'Australie, l'Amérique du Sud, etc. Et un jour, je me suis dit, on me téléphonera en me disant, votre père est mort. Et c'est évident. Et puis, j'habitais à 15 km de l'endroit où il habitait. Donc, je me dis, mais même, il pourrait mourir. Et en fait, un dîner avec des amis, le soir, mon père est là, et à minuit 20, très précisément, je le reconduis chez lui, à 100 mètres, et on grimpe la place du village. Il me dit, il faut que je me mouche. Alors, il sort son grand mouchoir. Je lui tenais le bras, il n'avait pas besoin que je lui tienne le bras, mais je regarde le ciel, mon père m'avait parlé des étoiles, de l'étoile polaire, il me disait la première levée, la dernière couchée, elle indique toujours le nord. C'était une leçon de cosmologie, mais en même temps une leçon de philosophie. Et je ne vois pas notre étoile polaire, et je dis on ne verra pas notre étoile polaire ce soir, et mon père me dit non, ce soir le ciel est couvert et il est mort, dans mes bras, d'un seul coup. Il restait debout, comme un chêne foudroyé, c'est-à-dire qu'il n'est pas tombé, c'est moi qui l'ai levé, porté, allongé. Et à ce moment-là, il y a une espèce de transmission. Je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas à l'âme immatérielle, je ne crois pas à la vie après la mort, mais quelque chose s'est passé au moment de sa mort, j'ai hérité. Pas grand-chose, je dirais après ça, le notaire m'a envoyé un chèque de 43 euros que je n'ai jamais touché, mais j'ai hérité de sa force. Et je me suis dit, maintenant, il faut être à la hauteur de cette force. Et j'ai démarré cette contre-histoire, pas cette contre-histoire, cette brève encyclopédie du monde, en essayant de raconter ce qui s'était passé dans la transmission à cette heure-là, à ce moment-là, de cette force dont j'avais hérité, en me disant, maintenant, j'ai pas des droits, j'ai le devoir de la porter et de la partager, cette force. Donc j'ai écrit Cosmos, puis Décadence, puis Sagesse. Et d'une certaine manière, Sagesse, c'est un portrait en creux de ce qu'était mon père. C'était un philosophe qui s'ignorait, mon père, mais c'était un Romain qui n'avait jamais lu aucun philosophe romain.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Michel Onfray, venu nous parler de son dernier livre, Savoir vivre au pied d'un volcan, aux éditions Albin Michel et Flammarion. Ne bougez pas.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Camille. J'allais dire Michel Onfray, Christine Béroux, Jérémy Lanca. Et notre invité Michel Onfray veut nous parler de son dernier livre. Alors vous publiez énormément, vous dites que vous rendez vos éditeurs fous parce qu'ils ne s'y retrouvent plus en fait avec tous ces livres.
Moi-même, je me rends fou. Oui, il y a eu jusqu'à 7 ou 8 livres parus dans une année, donc c'est évidemment beaucoup trop.
Il faut vous calmer, nous on n'a plus de sous là.
Oui, il y a ça aussi, j'ai des vrais lecteurs qui achètent tout et c'est vrai que ça, c'est beaucoup d'argent aussi.
Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on disait que vous étiez partout dans les médias, on vous voyait trop parce qu'en fait vous faites la promo à chaque fois de chaque bouquin, donc forcément vous êtes partout. Quoi.
Oui, c'est un peu ça, vous avez raison, je ferai un livre tous les 10 ans, on me verrait tous les 10 ans et pas autrement. Et de fait, un livre chasse l'autre, comme un éditeur ne peut pas tout publier, j'ai plusieurs éditeurs et de fait un livre vient de paraître que j'enclenche sur un suivant.
Michel Onfray, vous venez de fêter vos 60 ans. Selon mes informations, vous venez également de vous marier. On peut donc être philosophe et romantique.
Oui, bien sûr. J'ai épousé Dorothée, que je connais depuis plus de 20 ans. J'ai failli mourir le 27 janvier dernier avec un AVC. Là, donc, oui. Et je n'ai pas souhaité qu'après ma mort, elle soit obligée de repartir au lycée où on s'est rencontrés. Et j'ai perdu aussi ma compagne et on fabriquait un couple tous les trois avec l'assentiment de chacun. C'est-à-dire, c'est pas les saloperies qu'on racontait Closer au gala en disant il a perdu sa femme, il épouse sa maîtresse. Marie-Claude connaissait Dorothée, Dorothée connaissait Marie-Claude. On a fabriqué un couple qu'on a construit sur mesure et j'invite chacun à construire son couple sur mesure en dehors de l'hypocrisie et du mensonge. Et donc, quand j'ai failli mourir, je me suis dit, j'ai pas envie qu'effectivement mes biens aillent là où j'ai pas envie qu'ils aillent. N'entrons pas dans le détail, mais du côté de cette famille dont j'ai déjà parlé. Et j'ai voulu que ça aille à Dorothée. Donc j'ai dit, la meilleure façon, c'est de se marier. Donc j'étais habillé comme je suis habillé. On n'a pas fait, j'avais pas de chapeau melon, moi. J'avais pas de.
Elle se voyait sans vous.
Il n'y a pas eu de flonflon, il n'y a pas eu de riz,
elle
etc.
Elle n'était pas en robe de mariée,
Elle avait une jolie petite robe de mariée, mais qui n'était pas une robe avec traîne ou etc. Mais voilà.
Vous avez fait une pièce montée quand même.
Non.
Il a fait une formalité.
C'était une formalité en fait.
Non. Oui, c'était une formalité, mais c'était.
C'est émouvant quand même.
Comment vous dites formalité. Je vous donne un petit peu. Non, c'est pas. Enfin, c'est aussi un geste d'amour.
Quand même, oui, bien sûr.
C'est un
pas
geste
juste
aussi.
Pour l'héritage.
Absolument.
Là,
c'est aussi une façon de dire. J'envisage ma mort. Et je veux qu'après ma mort, les gens que j'aime vivent bien et n'aient pas de problème à vivre parce que c'est déjà assez difficile de vivre quand on perd quelqu'un qu'on a aimé et qu'il faut après se déchirer sur des histoires d'héritage, de droits d'auteur ou je ne sais quoi.
Moi, je vous aime beaucoup et je vais être très triste quand vous ne serez plus là. Je voulais que vous le sachiez.
Peut-être faire un testament. Tu n'oublieras pas ce moment entre nous.
Et d'ailleurs, à l'inverse, vous avez dit que beaucoup de gens auraient préféré que cet AVC ait eu raison de vous. En tout cas, en termes d'écriture, de...
Ben oui, bien sûr. Non, mais Anne disait tout à l'heure que j'étais très clivant, qu'il y avait les pour et les contre. Il y a les très pour et les très contre. Et il y a les très contre qui auraient bien vu que soit cet AVC me laisse aphasique ou agraphique, incapable d'écrire, voire disparaître. Oui, c'est quand même un monde très violent où des gens peuvent, ça se voit sur les réseaux sociaux, me dit-on, moi j'y vais pas, mais souhaitent votre mort, votre disparition, souhaitent le pire des choses dans votre existence. Oui, ça aurait réjoui des gens.
Je vous présente quelqu'un qui vous veut que du bien, c'est Christine
Béroux. Oui, absolument.
C'est une fan, votre fan sur la Terre numéro 1, et elle a lu votre livre.
Oui, Michel, j'ai lu votre livre avec intérêt. Alors, vous réhabilitez la philosophie romaine, selon vous, plus utile que la philosophie grecque. C'est bien. Évitez quand même de croiser Nikos quand vous sortez, parce qu'il ne comprendrait pas, mais c'est bien. Alors, vous vantez la relation maître-disciple qui induit chez ce dernier une forme de docilité qui se perd. Vous évoquez ces relations qui sont faites d'un jeune qui ne sait rien et d'un plus vieux qui en sait plus. Ça va être dur de porter cette philosophie dans une société où le jeune qui ne sait rien est présentement président de la République. Parce que vous, contrairement aux Romains, vous ne célébrez jamais Jupiter, on est d'accord. Alors on l'a dit, vous évoquez une civilisation qui s'effondre, mais c'est pas du tout un livre pessimiste. Page 125, il y a un chapitre très sympa, très feel good, qui s'appelle « Se suicider ». Tout ça est très métaphorique, j'espère, parce qu'après le chapitre « Se suicider », il y a le chapitre « Mourir ». Et là, on n'est que page 149, voilà, alors que le livre en fait 517. C'est bien que vous soyez venus nous voir pour rigoler un petit peu. Bon, alors, cela dit, c'est très très riche d'enseignements. Vous nous expliquez comment ne pas avoir peur de la mort en cette maxime. Si la mort est là, je n'y suis plus. Si je suis là, alors elle n'y est pas encore. C'est marrant, Léa, c'est comme toi avec l'homme de ta vie. Et alors, on a tous quelque chose à prendre dans ce livre. Par exemple, moi, je souffre beaucoup des gens méchants sur Internet. Eh bien, vous me dites, l'offense n'est que si j'y consens. Il me suffit de ne pas consentir pour qu'elle n'ait pas lieu. Et pour Anne, qui est, vous êtes au régime, une phrase d'Épictète. Voici le temps de la faim, F-A-I-M, éprouve-la avec dignité. Ça va mieux ?
Oui.
Tu parles. C'est efficace. Tu parles.
Non, la philosophie romaine est riche de sens, mais j'ai une critique à faire. C'est qu'elle exprime un sexisme que d'ailleurs vous dénoncez. Par exemple, il est écrit « Rome laisse le choix aux femmes d'être mère ou putain ». Bon bah Anne et moi on est mère, donc Léa je suis bien désolée pour toi.
Bah ouais. Je prends, c'est pas grave.
Non, en tout cas depuis que je l'ai lu, je voulais vous dire, je me sens plus humble. Je suis plus du tout à vendre mon ego comme ça, à vouloir me placer. Merci d'être venue d'Alençon pour nous, très jolie ville, où justement demain à 10h30 à la librairie Le Passage, je dédicace mon roman. Je dis ça tout fort, oh mon dieu. Alors cher Onfray, le très ancien qui ferait vraiment pas son âge, je vous cite une dernière fois. L'éternité n'est pas à venir, elle est ici et maintenant, pourvu qu'on la veuille. Eh bien, merci d'être venu partager ce morceau d'éternité avec nous, Michel Onfray.
Europe 1. On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec Michel Onfray, notre invité, venu nous parler de son dernier livre, Savoir vivre au pied d'un volcan, aux éditions Albin Michel Flammarion. Ne bougez pas.
Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Mickaël Quirogalet, Lando, Christine Béroux, Jérémy Lorquet, notre invité Michel Onfray.
Léa Lando a des questions à vous poser.
Michel Onfray, bon, vous êtes là pour la sortie de ce livre Sagesse, savoir vivre au pied d'un volcan. Je vous ai donc préparé une interview volcanique. Pour une fois, un philosophe va devoir en 2 minutes répondre à un maximum de questions le plus vite possible sans partir dans de longues allégories. Vous êtes prêts ? En vrai, Michel Onfray, vous êtes un homme sage ou volcanique ?
Volcanique.
La forme rectangulaire de vos lunettes que vous n'avez jamais changée, c'est pour dire que vous n'aimez pas arrondir les angles ?
Pas du tout, c'est parce que j'ai la tête trop grosse pour avoir des lunettes. Non, mais c'est vrai, en plus de ça, trop large pour avoir des lunettes du commerce, et donc je suis obligé de dessiner mes propres lunettes.
À choisir les femmes de 50 ans ou les plus jeunes ?
Toutes.
Des phrases extraites de leur contexte, c'est pour mieux vous reprocher ce que vous ne dites pas ou ce que vous dites ?
Oui, c'est pour me reprocher ce que je dis, oui.
Aujourd'hui, le français est un épicurien comme vous ou un épi plus rien ?
C'est difficile de parler pour les Français, mais je pense qu'il y a un vieil épicurisme à la Rabelais chez les Français.
Hédoniste dans l'âme, Michel Onfray, vous recherchez le plaisir, vous l'avez trouvé ?
Oui.
Ah, vous préférez ?
Vous pouvez me demander où ?
Oui, où ça ?
Attendez, Rabelais, hédoniste, vous m'avez perdu. Hein,
où ça ? Vous l'avez trouvé où alors ?
Dans l'art d'être présent dans chaque instant.
D'accord.
Mais pas dans la collection de femmes, pas dans cigarettes, whisky et petites pépées, pas ça, hein, ça c'est des caricatures.
Bien sûr.
Mais être vraiment présent dans l'instant, c'est là qu'est la jubilation.
Bon, une bonne nuit de sommeil, Michel Onfray, c'est de dormir longtemps ou de ne pas dormir seul ?
Ah non, c'est de dormir longtemps.
À quand une autre tenue que cette chemise blanche et ce pull en V noir, Michel Onfray ?
J'ai aussi des chemises noires.
Ouais, mais moi, je vous ai toujours vu dans cette tenue.
Oui, c'est pas impossible. Oui.
Michel Onfray, vous préférez avoir plusieurs femmes imparfaites ou une seule mais parfaite, même si on connaît déjà la réponse ?
Non, vous ne connaissez pas la réponse. Mais avant que je ne vous rencontre, je ne savais pas répondre à cette question. Une femme parfaite, ça n'existe pas. Mais il faut choisir les défauts de la femme qu'on aime. Et quand on a choisi les défauts de la femme qu'on aime, on peut l'aimer longtemps, voire toujours.
Oh, c'est romantique.
Oh, le faillot. Oh, le faillot.
Michel Onfray, le mot de la fin.
Fin.
Merci.
Michel Onfray, vous avez des très bons rapports avec Yann Moix, c'est un de vos meilleurs amis.
Oui.
Et vous avez fait quelque chose de très gentil pour lui cet été. Il avait un chagrin d'amour, il était très très mal.
et vous lui avez écrit un livre entre midi et 20h.
Oui, il est gentil de le dire, mais c'était amical. Mais on s'est frité sur le plateau de Laurent Ruquier à une époque, ça a été des images d'anthologie, tout ça. Et puis après, il a dit, ah, vous avez vu, j'ai quand même une raclée à Onfray. Je pense que les gens lui ont fait savoir que ce n'était pas exactement le cas. Et puis un jour, en public, il a dit, non, j'ai eu tort, j'ai dit n'importe quoi, etc. Puis depuis, on est devenus vraiment très, très proches. Il me confie beaucoup de choses.
Il a été un enfant battu comme vous ?
Oui, pire que moi. Non, parce que moi, j'étais battu comme on était battu à l'époque. Souvent, hein, on vendait quand même des martinets chez le quincailler à l'époque. Hein, ça veut dire qu'on frappait les enfants avec les martinets. Lui, je pense qu'il est en train de... Enfin, je ne vais pas raconter des secrets, mais il va raconter le détail de ces choses-là. C'est vraiment pire. La souffrance que son père lui a infligé est une souffrance qu'il s'inflige parce que c'est ce que les psys appellent une compulsion de répétition. Il se remet dans la peau de cette violence qu'il a subie en créant les conditions de cette violence qu'il remet sur le plateau. Donc tout ce qu'il dit, enfin on voit bien les femmes de 50 ans ou ce genre de choses, tout ça, ça déclenche des violences qui lui font du bien puisque ça lui fait du mal. Et c'est une souffrance que d'être comme ça. Il souffre, Yann, il est dans une véritable souffrance. Et les médias ne l'aident pas pour ça, puisqu'effectivement, les occasions de buzz sont grandes et les meutes se jettent sur lui. En même temps, il retrouve la situation qui était celle de l'enfant battu et frappé qu'il a été.
C'est bien que vous nous disiez qu'il souffre, parce qu'on s'en est pas rendu compte tout de suite.
Mais ça, c'est la télévision, vous savez, entre ce que l'on voit de quelqu'un, ce qui semble apparaître, parce que vous le voyez, et puis voilà, c'est moteur, allez hop, on y va, puis on coupe les trucs. Mais quand vous sortez du plateau, vous avez un être qui est parfois le contraire de ce qu'il est sur un plateau. Vous êtes des êtres arrogants, suffisants sur un plateau, qui sortent en...
Comme moi, j'ai l'air très sympathique et je suis arrogante et suffisante.
C'est ce que j'ai constaté.
Europe 1, Anne Romanoff, l'histoire de la semaine.
Michel Onfray, on a une tradition de cette émission. Chaque jour, les invités commencent une histoire et les autres la poursuivent. Donc, l'histoire a été commencée lundi par Alain Saxe, poursuivie mardi par les Chevaliers du Fiel, mercredi Nelson Montfort, hier Nolwenn Leroy. Nous sommes vendredi, c'est à vous de clôturer cette histoire.
Que des philosophes alors.
Oui. Avec un mot. Un mot imposé.
Un mot imposé. Lunettes.
Lunettes, voilà.
Bah oui.
Alors, donc, vous allez écouter ce qu'ont fait les autres et il faut clôturer l'histoire avec le mot lunettes.
Notre histoire, cette semaine, démarre dans le plus beau des décors. C'est une scène. Mais quel est le plus beau des décors d'une scène ? C'est fatalement un lit.
Quand tout à coup, on entendit, venu de l'horizon, un cri, c'était un cheval sur lequel il y avait un chevalier. Ce chevalier s'allongea dans le lit et se mit à attendre. Mais qui attendait-il ?
Il attendait tout simplement de voir le tournoi de tennis de Roland-Garros avec Raphaël Nadal et sa prodigieuse raquette qui devrait le conduire peut-être jusqu'à un 12e titre.
Sa raquette qu'il utilisait justement pour la chandeleur pour faire sauter les crêpes. À la place d'une poêle, Raphaël Nadal utilise sa raquette pour faire sauter la crêpe avec toujours forcément une pièce de monnaie espagnole dans la main pour avoir des sous toute l'année.
C'est alors qu'il a chaussé ses lunettes et que la suite reste à écrire.
Merci Michel Onfray d'être passé nous voir. On rappelle votre livre Savoir vivre au pied d'un volcan et aussi au cahier, les cahiers de Lerne qui vous rendent hommage. Un très bel ouvrage qui s'intitule tout simplement Onfray. Merci à toutes les personnes qui travaillent sur cette émission. François Desmoulins et Nicolas Charpentier à la réalisation. Lorena Martin à la programmation. Magali Buteau, Caroline Baudry et Pauline Châtaignier qui sont nos assistantes. Tout de suite retrouvez Raphaël Duchemin jusqu'à 14h. Et nous on se retrouve dès lundi à 11h sur Europe 1. Passez un excellent week-end.